de l'APRC, de l'Agence de développement de l'Union africaine, ensuite de la division intégration économique, et en troisième point de la première de l'introduction, ce serait à propos du mécanisme lui-même. Ensuite, en deuxième point, je vais m'apesantir sur l'approche du mécanisme de prestation des services. Par approche, j'entends quelle est la méthodologie que nous adoptons pour identifier les projets et identifier les besoins des projets, et quels sont les processus pour fournir un appui technique ou une assistance technique au projet, ou du moins aux organisations porteuses de ce projet. En troisième lieu, je vais vous présenter une description du portefeuille actuel, c'est-à-dire le nombre de projets actuels sur lesquels nous travaillons et ce que nous faisons précisément au niveau de ces projets. La quatrième partie de la présentation constituera une diapositive qui présente le rôle du SDM dans le cadre du processus PIDAPAP 2. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Nous allons recevoir beaucoup de questions sur quelle est la différence entre la communication que nous faisons avec les porteurs de projets, les États membres notamment, et les REX et les CER. Quelle est la différence entre cette procédure et le cadre de PIDAPAP 2? Ensuite, en cinquième lieu, je vais vous présenter un aperçu de l'équipe avec laquelle je travaille. Avant de conclure, je vais présenter les défis et les opportunités que présente le mécanisme et voir ensemble comment pourrions-nous collectivement solutionner ou bien apporter des solutions à ces défis et aussi saisir les opportunités. Et ensuite, le dernier point va consister à des échanges, comme je l'ai dit. Et avant de poursuivre, je pense que je l'ai annoncé à Krishna, trois ou quatre slides ou quatre diapos de ma présentation sont en anglais. Je n'ai pas pu me procurer de la traduction officielle et je m'étais gardé de fournir une traduction personnelle. Donc, je voudrais m'en excuser à cet effet. Les diapos seront en anglais, mais je vais les présenter, je vais parler en français. Donc, à propos de l'Agence de développement de... À propos de l'Agence de développement de l'Union africaine, comme beaucoup d'entre nous pourraient bien s'en rappeler, la transformation de l'Agence de planification et de coordination...
Voilà, donc, c'est bon.
Ah
ouais, c'est bon.
Merci. Oui, donc je disais que l'Agence... Je voudrais une fois de plus solliciter l'indulgence des participants. Veuillez mettre nos micros en silence. S'il y a une intervention, si vous voulez m'interrompre, je pense que vous pouvez tout simplement lever la main et Krishna va me le faire savoir. Merci. Donc, je disais, l'Agence de développement de l'Union africaine est née de la transformation de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD, l'APCN, à l'Agence de développement de l'Union. Cette transformation aussi est une partie d'une grande réforme qui est en cours au niveau de l'Union, réforme institutionnelle, mais aussi réforme opérationnelle. L'Agence opère aujourd'hui suivant six thématiques clés traitant des questions de développement du capital humain et le développement institutionnel, l'industrialisation, la durabilité environnementale, mais aussi et surtout l'intégration économique. Et c'est cette thématique qui nous intéresse particulièrement ici parce que l'intégration économique fait l'objet d'une division et la division que vous voyez au niveau sur la présentation, la division intégration économique, traite de trois thématiques clés. La première, ce sont les infrastructures et la connectivité. Donc, tous les aspects liés au développement des infrastructures, des transports, de l'énergie, de l'eau et des technologies de communication. Et des technologies d'information et de télécommunication. Donc, cette unité au sein de cette division est en charge essentiellement de la coordination de la mise en œuvre du deuxième plan d'action prioritaire du PIDA, PIDA PAP 2, mais aussi d'un certain nombre de projets phares de l'agenda 2063, par exemple les projets de chemins de train à grande vitesse continentale, par exemple, ou bien les projets de marché unique de transport aérien. Donc, ensuite, nous avons une unité au sein de la division qui est essentiellement chargée des questions des échanges régionaux, des échanges de commerce régionaux. Et les cadres d'opération de cette unité, c'est essentiellement l'accord de libre-échange continental. Et ensuite, nous avons une unité d'appui au développement du secteur privé qui traite essentiellement de la question du partenariat public-privé, l'appui aux PME et l'appui spécifique à certains projets dans le cadre du partenariat public-privé. Donc, ceci étant, je voudrais maintenant présenter brièvement le mécanisme de prestation des services. Je fais exprès de mettre sur la présentation et la décision de l'Union africaine de 2015 qui approuve la mise en place du mécanisme pour notifier qu'il y a une certaine synergie dans ce que nous sommes en train de faire. Il vous souviendrait qu'en 2014, deux ans après le lancement du PIDA, le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le président du Conseil d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD à l'époque, M. Macky Sall, le président du Sénégal, avait convoqué une conférence continentale pour identifier les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre du PIDA. Et lors de cette conférence, un agenda d'action a été adopté, l'agenda de Dakar, et un des points clés de cet agenda consiste à instruire l'agence, à l'époque l'agence du NEPAD, maintenant AUDE NEPAD, de développer des instruments d'appui à la préparation de projets et des instruments d'appui à la mobilisation du secteur privé. La raison principale de cette requête est que le plus grand défi pour la mise en œuvre du PIDA, c'est le manque de capacités et le manque de ressources pour préparer des projets qui sont commercialement et économiquement attirants pour les financements. Donc, c'est dans ce cadre que l'agence, en coopération avec les partenaires techniques, notamment la Banque africaine de développement, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, mais aussi et surtout les communautés économiques régionales, ont développé les SDM et en 2015, la conférence de l'Union l'avait adopté. Vous constaterez avec moi la célérité du processus. L'agenda de Dakar a été adopté en juin 2014 et entre juin et janvier 2014, l'agence du NEPAD avait développé le mécanisme et nous avons obtenu l'approbation de la conférence de l'Union. Cela souligne en fait l'urgence de la préparation de projets pour faire avancer le programme PIDA. Maintenant, bon, comme je disais, certains deux ou trois de mes slides seront en anglais, celle-ci en fait partie. Quelles sont les fonctions principales du mécanisme? Les fonctions principales du mécanisme sont de deux sortes. Une partie des fonctions liées à l'appui technique aux préparations des projets même, qui se compose aussi en deux volets. Le premier volet, l'appui au développement des projets. Ce volet a trois domaines d'intervention. L'intervention au stade préliminaire de développement des projets, par exemple, examen du cadre réglementaire, l'harmonisation des politiques, la mise en place des unités de préparation des projets. Le deuxième aspect pour le développement des projets consiste au stade où le projet atteint le niveau des études de préfaisabilité, par exemple, et ensuite, lorsque les projets atteignent des niveaux avancés, comme la structuration. Ensuite, nous avons une composante d'appui en conseil technique. À cet effet, nous disposons d'un pool d'experts, c'est-à-dire c'est un groupe d'experts qui ont été recrutés et qui interviennent de façon ad hoc une fois que nous identifions un problème particulier sur un projet et en accord avec le porteur du projet. La deuxième composante des fonctions, ce sont des fonctions plus ou moins administratives qui consistent au suivi et évaluation de nos activités, la gestion des partenariats et de mobilisation des ressources et enfin la gestion des connaissances. Donc, je viens de présenter les raisons politique et institutionnelle de la mise en œuvre du mécanisme. J'ai aussi présenté les différentes fonctions clés du mécanisme. Maintenant, la question fondamentale, c'est comment les mécanismes apportent ou s'opérationnalisent pour apporter ces solutions. Comment les mécanismes exécutent ces fonctions. Nous exécutons ces fonctions à travers une approche et nous avons qualifié de label de qualité PIDA. Donc, le label de qualité, c'est un label, mais aussi une méthode pour analyser le projet, identifier ses défis et voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ces projets particuliers. Donc, c'est une relation un peu tripartite, si je peux dire, entre l'unité en charge du mécanisme de prestation de services, à savoir nous-mêmes, l'Agence de développement de l'Union africaine. Ensuite, les États membres, les communautés économiques régionales et d'autres organes régionaux qui sont porteurs des projets. Et en troisième lieu, la troisième composante de ce processus tripartite, ce sont les facilités de préparation des projets. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec le NEPAD ITTF, qui est un mécanisme de préparation des projets logé au sein de la Banque africaine de développement. Donc, l'objectif principal de notre approche, c'est de raccourcir la période nécessaire pour que les projets atteignent les niveaux de faisabilité et de bancabilité nécessaires pour leur mise en œuvre. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, pour ce faire, comme je l'ai allé dire, notre approche consiste à définir une méthodologie consensuelle et scientifique et objective pour identifier les lacunes des projets et solutionner ces lacunes et enfin certifier l'excellence de la préparation des projets au moyen de ces labels. Donc c'est pour cela que je disais que c'est aussi un label, mais c'est surtout une méthode et une approche. Donc cette diapo détaille un peu les différentes phases du fonctionnement de cette approche. Le label dispose de deux niveaux. Le premier est LQ1. Ce sont des évaluations préliminaires pour des projets qui ne sont pas à un stade avancé. Donc, pour des projets qui sont vraiment au niveau de conceptualisation et de préfaisabilité. Et La deuxième phase du label, c'est pour des projets qui ont les études de faisabilité, pré-faisabilité finalisées. Et enfin, la troisième phase, c'est pour des projets qui sont au niveau de structuration. Donc, qu'est-ce que nous faisons, par exemple? Une fois que nous recevons l'application, c'est-à-dire la requête des États membres ou des communautés économiques régionales, nous procédons à des entrées de données, donc l'analyse de la requête. Ensuite, nous évaluons les projets. Cette évaluation devrait conduire à la production d'un mémorandum conceptuel du projet. Ce mémorandum détaille les résultats de nos évaluations en termes des points forts du projet, des points faibles du projet et des actions concrètes sur lesquelles nous pouvons convenir avec les porteurs du projet. Une fois que ce mémorandum conceptuel a été produit, donc si les porteurs du projet, par exemple, si c'est un pays ou bien une communauté économique régionale, s'accorde sur les activités que nous proposons. Donc, nous allons contacter les groupes d'experts dont j'ai fait mention précédemment. Et ce groupe d'experts sera en charge de l'exécution des activités convenues. Maintenant, après cette phase, s'il y a besoin d'assister les projets pour accéder à des financements de faciliter les préparations des projets, nous pouvons aussi aider, appuyer techniquement les porteurs de projets afin que les projets puissent remplir les critères de soumission. Après, ce stade va nous conduire normalement à la production d'un PIM, le Project Information Memo, donc un mémorandum d'information détaillé sur le projet. Et ce mémorandum d'information détaillée sur le projet sera l'outil pour la troisième phase, c'est-à-dire les études avancées et la mobilisation des financements pour la mise en œuvre du projet. Donc, cette slide, je jetais un peu en avant, détaille en fait les modalités d'application de la méthode, l'éligibilité, l'évaluation, ainsi de suite. Maintenant, ça c'est un exemple d'évaluation des projets. Ce sont les notes que vous voyez sont juste pour l'illustration, c'est-à-dire que ce ne sont pas des notes réelles, les projets non plus. Donc, nous avons deux prismes d'évaluation. Il y a le prisme du contexte stratégique du projet, et ce prisme comporte en son sein quatre dimensions. La première dimension, c'est la priorité régionale, le caractère prioritaire au niveau régional du projet. Et vous pouvez voir les pourcentages en termes de poids alloués à chaque composante, à chaque dimension. Par exemple, le niveau d'intérêt et d'engagement politique, la promotion des échanges commerciaux et des investissements interrégionaux, la réduction de la pauvreté, l'alignement sur les objectifs de développement durable, ainsi de suite. Ensuite, la deuxième dimension pour le prisme contexte stratégique, c'est l'état de préparation du secteur à lui-même. Là, ça va nous permettre d'évaluer le cadre juridique et réglementaire, l'organisation du secteur, la maturité du secteur, et enfin, l'intérêt du secteur privé. Après cette évaluation, le deuxième prisme concerne le projet en lui-même. La maturité du projet en termes de faisabilité technique, viabilité financière, la question environnementale, sociale et gouvernance, et surtout l'allocation des risques. Et la dernière composante du prisme du projet, c'est l'attractivité pour des partenariats publics-privés. Donc, le commentaire que je devrais faire ici, c'est que ces questions... c'est vraiment un résumé. Dans les processus de soumission de requêtes, il y a un nombre assez détaillé de questions que nous posons aux porteurs de projets. Et chaque chaque réponse doit être soutenue par des évidences. Par exemple, si vous estimez que le projet a un niveau d'intérêt et d'engagement politique régionaux très élevé, nous allons vous demander de soutenir cette affirmation par des documentations ou des évidences pour qu'on puisse effectivement se rendre compte que oui, le projet est en effet régional. Évidemment, nous ne doutons pas qu'un porteur de projet puisse affirmer que le projet a un intérêt régional sans l'État, mais c'est pour des rigueurs des méthodes que nous demandons à chaque fois qu'une réponse est fournie, il faut fournir une évidence pour soutenir cette réponse. Donc voilà comment nous procédons pour allouer des scores pour chaque dimension, et ces scores-là seront agrégés pour nous donner un tableau de bord comme suit. Par exemple, si je prends les projets de chemin de fer, projet W, c'est, comme je disais, ce sont des projets fictifs, mais en tant qu'étant pas fictifs, nous avons simplement changé de nom, sinon c'est des projets réels. Donc, vous pouvez bien voir la toile d'araignée, le graphique en toile d'araignée présente les différentes dimensions et les scores du projet. Par exemple, sector readiness, c'est ça ce que j'appelais la maturité du secteur, regional priority, le caractère prioritaire régional du projet, et aussi l'intérêt du secteur privé, mais aussi la maturité du projet. Donc, à chaque fois, nous comparons le projet lui-même avec la moyenne de tous les projets qui sont au sein de notre portefeuille. C'est suite à cette analyse, c'est ce tableau de bord qui nous permet de clairement identifier les points faibles. Par exemple, s'il s'avère que la maturité du projet est très, très, très faible, donc nous retournons dans les détails de l'instrument. On a développé une plateforme, une sorte de portail ou slash de logiciel qui nous permet de voir ces dimensions en détail. Donc, nous retournons là-bas et nous regardons spécifiquement quel est le problème qui a fait que la maturité du projet s'avère faible. Et c'est là-dessus que nous conceptualisons l'appui technique nécessaire pour ce projet particulier. Si, par exemple, nous remarquons que le projet a un fort potentiel pour attirer les partenariats publics-privés, et à cet effet aussi, nous prenons note et nous informons les porteurs du projet qu'il y a une forte probabilité que ce projet puisse rapidement faire l'objet d'un contrat PPP. Et voilà l'appui que nous pouvons donner dans ce cadre. Alors, j'estime avoir présenté la méthodologie. Comme je disais, nous aurons l'occasion d'échanger là-dessus. Mais à qui s'adresse cette approche? L'approche s'adresse aux promoteurs de projets qui peuvent bénéficier d'une aide à la structuration du projet, mais aussi l'approche s'adresse aux Project Preparation Facilities, donc ces institutions qui cherchent des projets à préparer, à financer et à vendre aux investisseurs. Parce que ce qu'il faut aussi se mettre en tête, c'est que l'analyse des projets qui sont à un stade relativement au tout début de leur stade de développement attire très peu d'intérêt pour les investisseurs. Et c'est pour cela que cela constitue un marché unique pour l'agence du développement. Parce que beaucoup d'investisseurs ne sont pas prêts à investir leurs ressources pour que les projets soient prêts à un niveau de faisabilité. Beaucoup de chercheurs de projets s'intéressent aux projets qui présentent déjà des chiffres économiques intéressants. Et ces chiffres économiques intéressants ne peuvent être présent qu'après les études de faisabilité, de pré-faisabilité, mais aussi les investisseurs s'intéressent aux projets qui ont un cadre réglementaire assez clairement détaillé. Donc, ce que nous apportons de plus dans cet écosystème, c'est justement aider les projets à avoir un cadre réglementaire stable, mais aussi des études préliminaires adéquates. Et ensuite, maintenant, aider les projets à accéder au financement. Maintenant, comme j'avais promis à l'introduction, je voudrais maintenant présenter les portefeuilles sur lesquels nous travaillons. En tout et pour tout, pour cette année, nous avons considéré 89 projets. Et ces 89 projets sont classifiés en trois grandes catégories. Il y a 10 projets qui sont en cours, c'est-à-dire nous sommes en constante communication avec les porteurs du projet. Nous avons pour certains identifié les besoins et pour certains, nous sommes déjà en accord sur les activités qui seront mises en œuvre et les activités sont en cours. Nous avons des projets, la deuxième catégorie, où nous avons contacté les porteurs du projet, mais nous n'avons pas encore eu de réponse. Et il y a une dernière catégorie où nous avons fait quelques échanges préliminaires avec les porteurs du projet, mais jusque-là, nous n'avons pas abouti à des actions concrètes que nous pouvons mener. C'est à ce niveau que je voudrais nous appeler. J'estime que beaucoup de participants à cette réunion-ci peuvent voir peut-être un de leurs projets sur la présentation. Donc, s'il y a un projet dont vous avez la charge et que peut-être vous n'êtes pas au courant de ce dont je suis en train de parler, je vous en prie de bien vouloir nous saisir et on continue la conversation après. Parce que la réalité, c'est que nous pouvons contacter la personne qui n'est pas la bonne personne pour ce projet particulier. Et cela peut retarder le processus. Alors que si nous avons saisi la bonne personne dès le début, nous aurions gagné beaucoup en temps. Donc, comme je le disais, nous avons 10 projets qui sont en cours où nous avons déjà développé ou élaboré les mémorandums conceptuels des projets. Nous avons identifié les services d'appui nécessaires pour ces projets et nous avons déjà déployé l'expertise technique. Comme je disais toujours, il y a un groupe d'experts qui est prêt à intervenir une fois que le projet est identifié et qu'il y a un accord clé avec les porteurs du projet à cet effet. Donc, cela vous donne une idée des 10 projets sur lesquels nous sommes actifs maintenant en fonction de la région, bien en fonction des différents secteurs. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de nos projets, et c'est valable hein, dans les portefeuilles PIDA, la majorité des projets sont dans les domaines des infrastructures de transport. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que bien que les projets sur les eaux transfrontalières sont minoritaires dans les portefeuilles PIDA, mais nous sommes en train de travailler sur trois d'entre eux. La raison pour laquelle nous avons réussi à amorcer le processus dans le secteur de l'eau, et c'est surtout un fort partenariat avec les partenariats mondiaux de l'eau, GWP, Global Water Partnership. Ils ont une présence assez forte dans nos pays et nous avons capitalisé sur cette présence pour identifier ces projets et surtout avoir les informations. Donc, toujours cette présentation, cette slide présente le projet sur lequel nous n'avons pas eu de résultats concrets de nos engagements, de nos communications avec les porteurs du projet. Vous pouvez aussi voir la distribution selon les régions, les secteurs ou bien les communautés économiques régionales. Enfin, nous avons catégorisé ces projets suivant quatre grands programmes. Et certainement, vous êtes au courant que dans la plateforme d'information sur les projets PIDA VIPIC, les projets sont catégorisés en grands programmes et ces programmes sont détaillés en petits projets. Et c'est cette approche qui nous a permis de les regrouper. Donc, vous pouvez voir, nos projets se trouvent essentiellement soit au niveau du corridor multimodal nord-sud en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Est et Austral, notamment le corridor Praia-Dakar-Abidjan-Lagos et puis le corridor des transmissions électriques nord-sud et enfin l'interconnexion électrique d'Afrique centrale. Maintenant, je disais qu'il est important de clarifier les rôles du SDM dans le cadre du PIDAPAP 2. Donc, PIDAPAP, les plans d'action prioritaires du PIDA, qu'il soit PIDAPAP 1 ou PIDAPAP 2, c'est une approche pour le continent d'avoir les paniers de projets prioritaires à mettre en œuvre qui ont des portées intégrantes pour le développement du continent. Donc, c'est de cette façon que je pense que nous devrions comprendre PIDAPAP 2. C'est une approche pour l'Afrique de définir ses lignes prioritaires en termes d'infrastructure. Maintenant, SDM est un instrument pour appuyer cette priorité à la maturité. Notre rôle, c'est de soutenir les projets avec l'appui technique nécessaire pour les faire avancer le plus rapidement possible à un stade de mise en œuvre. Maintenant, comment nous allons procéder? Nous allons procéder d'abord, lorsque tous les projets seront approuvés par le comité technique spécialisé de l'Union et qu'une liste sera finalement adoptée par la conférence de l'Union, cette liste-là fera l'objet d'analyse entière par SDM. Donc, nous allons analyser tous les projets qui seront issus du processus PIDAPAP 2. Et cette analyse va nous permettre d'identifier les lacunes, les forces, les faiblesses de ces projets, mais aussi de voir quelles sont les interventions concrètes qui sont nécessaires et en accord avec ceux qui portent ces projets, nous pouvons déployer l'expertise pour résorber à ces lacunes que nous avons observées. Dans le cas où nous avons identifié de gros problèmes que l'agence ne peut pas solutionner, nous ferons appel à nos partenaires pour construire des partenariats afin que les projets puissent bénéficier de leur appui. En particulier, le NEPAD IPPF au sein de la Banque africaine de développement est notre partenaire naturel dans les processus PIDAPAP 2. C'est-à-dire, lorsque nous allons analyser le projet, nous allons identifier les besoins, la toute première facilité de préparation des projets à laquelle nous allons soumettre la liste des projets sera NEPAD IPPF, parce que ils sont par essence conçus pour soutenir les projets prioritaires du continent. J'avais dit à l'introduction que je vais présenter de façon succincte l'équipe derrière la prestation des services de SDM. Donc, avant de présenter l'équipe, nous avons quelques structures de coordination au sein du NEPAD, le groupe technique de travail et les groupes de transactions. Donc, les groupes de transactions constituent la plateforme où nous recevons les soumissions, les demandes d'appui des différents porteurs de projets. Nous analysons ces requêtes, nous faisons les analyses préliminaires, nous identifions les actions à faire et puis nous communiquons avec les porteurs de projets pour identifier en commun accord ce que nous pouvons faire sur ce projet. Une fois que cela est fait, nous présentons le tout au groupe technique et c'est le groupe technique qui approuve les actions que nous allons mener pour un projet particulier. Et derrière ces deux groupes, vous avez l'unité elle-même qui est constituée de moi-même et de plusieurs programme officers et des conseillers. Les conseillers nous viennent des partenaires, notamment la coopération allemande. Et maintenant, l'équipe d'analyse des projets est constituée d'analystes par région et aussi des analystes financiers, des spécialistes de création d'emplois dans le secteur des infrastructures et ainsi de suite. Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que ce ne sont pas tous les ressources humaines présentées ici qui sont présentement disponibles. Il nous faut encore dégager des ressources pour renforcer l'équipe. Maintenant, je pense qu'il est important que je m'apesantisse un tout petit peu aussi sur les groupes d'experts multidisciplinaires que j'avais annoncé. Donc, à travers un financement de la coopération allemande, nous avons contracté une firme avec environ une vingtaine d'experts multidisciplinaires. Et donc, ce sont ces experts-là qui sont déployés à chaque fois que nous avons identifié un besoin et que nous sommes accordés avec les porteurs de projet. Donc, ce sont là les défis et les opportunités pour l'opération de SDM. Évidemment, vous êtes nos superviseurs, les États membres et le REX, mais aussi vous êtes nos clients. Et donc, il est important que vous soyez au courant de nos défis, notamment en termes de contraintes de ressources. La deuxième dimension, c'est en termes de confidentialité et de sécurité des données. Nous sommes parfaitement au courant de la sensibilité dans les domaines des finances des projets. Donc, si vous partagez vos documents, nous disposons d'une plateforme sécurisée, d'une plateforme informatique à l'interne où nous stockons toutes les informations des comptes rendus des réunions ordinaires aux documents d'études confidentielles soumis par les porteurs de projets. Donc, nous sauvegardons ces informations au sein de nos plateformes de données et dans la mesure du possible, je peux vous assurer que ces données sont en sécurité. La deuxième composante qu'il faut aussi examiner ici, c'est le groupe d'experts, le pool d'expertise externe. Et il faut le savoir, ce contrat que nous avons avec le groupe d'experts a une durée où elle va expirer, où le contrat va expirer et ces délais pour le moment, et nous sommes avec eux jusqu'au mois de juillet 2021. Donc, nous sommes en train de penser à l'approche la plus économique pour prendre le relais à la fin de ce contrat. Prendre le relais, c'est-à-dire s'assurer à ce que nos interventions sur les projets spécifiques, notamment à l'avènement des projets PIDAPAP2, nous devrons nous assurer que notre capacité à appuyer et à soutenir le projet ne serait pas influencée par la fin du contrat actuel. Et pour ce faire, la bonne chose à faire, c'est de s'assurer que nous disposons des ressources pour contracter l'expertise à la fin de cette phase. En conclusion, je voudrais rappeler les objectifs de SDM, mais aussi les services qu'il fournit. L'objectif, c'est d'être un appui technique à la préparation des projets. Et j'insiste sur la question d'appui technique, assistance technique, parce que nous ne transférons pas de fonds. Donc, si nous nous accordons à vous soutenir pour la préparation d'un de vos projets, évidemment, nous allons chiffrer financièrement ce que cela va coûter, mais au lieu de vous transférer le financement, nous faisons plutôt appel à des experts contractés précédemment pour exécuter ces études ou bien ces tâches. De votre côté, je pense qu'il faudrait voir ce que l'objectif final est de notre côté aussi, c'est que le projet avance. Donc, et pour que le projet avance, je pense que notre approche simplifie les procédures. Excuse-moi. Parce que s'il faut transférer les fonds, aller faire des missions de due diligence, évaluer la capacité de l'institution à en accueillir, ainsi de suite, puis lancer les procédures d'appel d'offres, contracter un consultant, prendre une part active à la gestion des consultants, à son recrutement, cela prend du temps et des ressources. Donc, notre approche est très simple. Nous identifions les problèmes, nous évaluons ces problèmes-là financièrement, combien cela va coûter, et nous disons, OK, l'objectif étant que le problème soit résolu, voici l'expertise qui peut résoudre ce problème. Évidemment, en tant que porteur de projet, vous avez toute l'attitude d'apprécier les solutions que nous apportons et nous serons toujours à votre écoute. Si, par exemple, vous estimez que l'expert que nous avons mis à votre disposition, les résultats qu'il produit ne sont pas à la hauteur de vos espérances, ou bien le travail fourni n'est pas à la hauteur de vos attentes, il est tout à fait normal que nous puissions ouvrir un dialogue et puis régler ce problème. Deuxième objectif, c'est surtout, comme je disais, résoudre les défis de préparation des projets qui sont aux toutes premières phases du cycle de projet. J'insiste parce que nous le savons tous, les banques de développement et bien d'autres institutions ne mettent pas des ressources pour des projets qui sont à la phase conceptuelle ou bien qui ont un blocage réglementaire, institutionnel, surtout les projets à caractère transfrontalier. Donc, comme je disais, l'objectif de SDM, c'est surtout de résorber les manques de capacités au niveau des États membres et des REX, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En termes de services, donc nous appuyons, nous fournissons un service d'appui à l'accès au financement pour des études, pour des préparations de projets. Nous assistons aussi les projets à harmoniser les cadres transfrontaliers, mais aussi à l'évaluation des conditions d'investissement du projet, diagnostiquer les projets, identifier les problèmes et fournir des solutions. En ce qui concerne le label de qualité, je l'ai allé dire, c'est aussi un label, mais c'est aussi une méthode rigoureuse pour nous de fournir un appui technique aux porteurs de projets. En ce qui concerne le groupe d'experts techniques qui exécutent, je l'ai dit que ce sont des ressources contractées et financées par la coopération allemande et ils sont avec nous jusqu'au mois de juillet 2021. Ceci dit, je voudrais sincèrement vous remercier pour votre attention tout au long de ma présentation. Ça a été long, certainement, mais c'était nécessaire. J'ai sincèrement apprécié la forte présence, ce n'est pas évident, malgré l'agenda chargé de nous tous, de consacrer 2 heures pour ce genre d'échange. Krishna, donc, je voudrais vous passer la parole et pour modérer nos échanges et puis s'il y a d'éventuelles questions et réponses, je suis disponible à les répondre. Merci bien.
Merci beaucoup Ibra pour cette brillante présentation. Et merci encore pour votre dévouement, en fait, jour férié en Afrique du Sud. Donc, chers collègues, nous pouvons maintenant prendre vos questions. Si vous pouvez, peut-être, si vous avez une question, vous pouvez lever la main ou bien poser la question dans le chat ou carrément prendre la parole, donc activer votre micro et poser votre question. On va les prendre comme il y a pas de questions encore. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir et on va répondre. On va essayer de répondre.
Bonjour, monsieur le modérateur.
Oui.
Monsieur Fouti.
Ah, monsieur Fouti, bienvenue.
Oui, monsieur Fouti, depuis Cotonou, au Bénin.
Oui, je me rappelle.
Le palais.
Allez-y, monsieur Fouti, on vous écoute.
Voilà, je vous remercie, j'ai suivi avec intérêt donc la présentation de monsieur Ibra. Et je voudrais savoir quelles sont les conditions donc d'accès à ces services, à ces SDM-là.
Ok, merci pour la question. Je crois que je vais demander à Ibra de répondre de la part de Aouda. Ibra, à vous. Oui.
Merci beaucoup. Merci bien pour M. Fouti pour la question. Quelles sont les conditions d'accès? Les conditions d'accès sont, je vais dire, c'est une seule condition à la limite. C'est que le projet soit fait partie de la liste des projets PIDA, parce que la liste des projets PIDA elle-même a été établie avec plein de conditionnalités, plein de critères, ainsi de suite. Donc, une fois que le projet est dans cette liste, pour nous, il constitue une priorité continentale. Et si c'est une priorité continentale, c'est notre mandat de soutenir ce projet. Donc, c'est là. Évidemment, une fois que vous avez votre projet, il faudrait remplir la fiche de soumission. Puis nous allons évaluer cette fiche de soumission et c'est cette évaluation-là qui va guider les actions concrètes que nous allons fournir au projet. Merci.
Oui, merci Ibra. Je vois une question. J'espère que ça répond à votre question, mais moi j'aimerais y revenir tout à l'heure, mais on va déjà peut-être écouter à monsieur Guichard Sangou de la CEAC. Guichard, vous pouvez nous entendre, vous pouvez poser votre question. Allez-y, Guichard.
Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez là.
Très bien,
c'est
très
bon,
bien,
ça passe.
Parfait, on vous entend parfaitement, allez-y.
D'accord. Donc je voudrais commencer par remercier Ibrahim pour la présentation qu'il venait de faire. J'ai vraiment beaucoup de questions sur la quantité d'informations qui nous a été fournie. Et je vais commencer par la première question. Je me trouve un peu confus sur finalement le rôle que joue le NEPAD, en fait, dans le processus de mise en œuvre du PIDA. Je sais que le NEPAD aujourd'hui, bon, c'est une agence de développement de l'Union africaine, est chargée de la mise en œuvre. Est-ce une agence de financement aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, à ma connaissance, lorsque nous sommes, par exemple, nous voulons préparer des projets, des appuis, aujourd'hui, je sais qu'il existe un fonds au niveau de la BAD, le fonds IPPF. Est-ce que les États où les CER sont obligés de passer par le NEPAD pour solliciter un fonds pour la préparation des projets. C'est une question que je me pose, hein, parce qu'aujourd'hui, ça je vous le dis, la CEAC écrit directement à l'ABAD lorsque nous avons besoin d'un appui, hein, pour la préparation de nos projets d'infrastructure. Et si ce projet rentre dans le cadre, par exemple, du projet PIDA, comme c'est le, nous sommes réunis dans le cadre du projet PIDA, je peux comprendre que le NEPAD serve d'intermédiaire, peut-être entre les CER ou les États, et l'agence aujourd'hui qui a un fonds dédié pour la préparation de projets. Parce qu'entendre la présentation, on aurait l'impression que c'est le NEPAD qui finance. Hein, je pense qu'une clarification est nécessaire dans ce sens. Ma deuxième préoccupation aujourd'hui, je sais que dans le cas du PIDA PAP 2, nous sommes encore dans le processus de sélection de projets. Nous avons rempli des projets sous une plateforme dédiée PIDA, sous la gouvernance de Krishna, qui représente l'Union africaine, qui est présent là actuellement. Et je suis, ce processus-là n'est pas encore arrivé à terme, parce que chaque sous-région est censée avoir 10 projets, dans le cas du PIDA PAP 2. Donc, je suis quand même très surpris de constater, dans cette présentation, on nous présente 54 projets. D'où sortent ces 54 projets-là? Les projets qui ont été listés dans la présentation de Ibrahim. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait quelques projets de l'Afrique centrale, hein, principalement sur des infrastructures routières, des infrastructures des eaux transfrontalières. Mais je me pose la question, ces projets-là sortent d'où en fait? Puisque le processus de sélection de projets sur lequel le NEPAD devait assurer la mise en œuvre n'est pas arrivé à son terme. Donc, ces projets-là sortent d'où? Ah, donc, ça, c'est ma deuxième préoccupation. Ma troisième préoccupation, lorsqu'Ibrahim parle du cadre réglementaire de projet, ça veut dire, je ne comprends pas le sens en fait. Que veut dire cadre réglementaire de projet en fait? Donc j'ai besoin un peu des éclaircissements. Et j'ai constaté sur les différentes phases de projet, hein, Ibrahim a repris les différentes phases qui avaient été adoptées pour le PIDA PAP 1, c'est-à-dire S1 jusqu'à S4. Devrais-je déduire, ce sont les mêmes phases qui vont être retenues pour les projets de la deuxième phase du PIDA? Parce que c'est une question que j'avais soulevée au cours d'une réunion, si Krishna se souvient, on n'avait pas eu de réponse. Donc, est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été fait pour dire que les phases qu'on avait retenues, les différentes phases qu'on avait retenues pour la première phase du PIDA, seront les mêmes phases qui seront retenues pour la deuxième phase du PIDA? Ma dernière préoccupation, rapidement, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai d'apprendre que le NEPAD a signé une coopération avec l'Allemande, où il y a un pool des experts qui est mis à la disposition 2021, jusqu'en juillet 2021, dans le cadre de la préparation des projets. C'est juste un ressenti, hein. C'est un ressenti que j'ai, et de par mon expérience dans la sous-région, si nous voulons que les États puissent s'approprier des projets dans leur mise en œuvre, il est indiqué, je pense, que ces mêmes États puissent participer de façon active dans le processus de sélection, dans le processus de préparation de ces différents projets. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le projet du PIDA dans la première phase, le niveau d'exécution n'était pas le niveau escompté. C'est parce que les démarches, les choix que nous avons faits, les choix stratégiques, faisaient que les États ne s'étaient pas appropriés de ces projets. Et j'ai bien peur avec ce choix que le NEPAD vient de faire, de prendre une agence de coopération, un pool des experts qui, dont les États membres ne se retrouvent pas dans ce pool des experts. Et ce sont ces experts-là qui vont venir préparer nos projets. C'est juste un ressenti et je ne pense pas, je peux même le dire, que la CEAC ne va pas s'inscrire dans cette démarche, dans cette logique. Voilà un peu le point que je voulais remonter. Okay. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Guichard. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais peut-être passer sur les 5 questions, apporter quelques éléments et je vais laisser Ibra compléter éventuellement. Concernant le rôle de NEPAD comme agence de financement, en fait, je vais peut-être laisser à Ibra de répondre, mais ce que je peux dire, c'est que NEPAD IPPF est un trust fund, est un fonds. Et ils ont en fait des moyens pour financer des études. Et d'ailleurs, je crois que comme a été annoncé par Mike Salahou dans une des conférences ici même de PIDA, que dorénavant en fait NEPAD IPPF a décidé de en fait focaliser pas mal la plupart de ses ressources, la plus grosse part de ses ressources sur les projets PIDA PAP2, sur le portefeuille PIDA, parce que ce sera déjà une liste sélectionné, trié, prioritaire. Et comme hier, en fait, Ibra avait dit, peut-être qu'il va élaborer tout à l'heure, il avait dit que en fait, le SDM peut-être est un outil qui peut agir comme un feeder, en fait, qui peut venir nourrir en fait en projet le pipeline, le portefeuille de NEPAD IPPF. Donc, il va élaborer éventuellement. Deuxième question, c'était par rapport à PIDAPAP 2. Chaque sous-région devait avoir 10 projets. Oui, effectivement, rien n'a changé, Guichard. Nous travaillons activement là-dessus. Comme vous savez tous, nous avons été très perturbés par tout ce qui était pandémie, Covid, et même les troubles qu'on a eus en Éthiopie avec 24 jours d'interruption d'Internet. Donc, on a pris pas mal de retard, 2 ou 3 mois de retard qu'on rattrape maintenant. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a établi déjà, en fait, dans les 242 projets qui étaient soumis, il y a 234 qui ont été déclarés éligibles, donc qui ont passé le seuil d'éligibilité et qui sont maintenant en train d'être épluchés, en train d'être analysés par rapport aux critères de sélection qu'on avait présentés dans les ateliers, notamment à Libreville. Pour la région centre. Et à partir de ces 234 projets, il y a 220 projets qui sont hard, que je dirais hard infrastructure, donc c'est des projets d'infrastructure proprement dit, de construction de routes, etc. Le reste, c'est des projets soft, donc de cadre régulateur, et il y a une partie des projets sur les petits états insulaires. Donc définitivement, tout tient bon, il y aura effectivement 10 projets par région dans la liste de la cinquantaine de projets hard qui seront sélectionnés dans la shortlist. Alors, en parlant des 54 projets que vous avez vus, en fait, je crois que c'est pas du tout lié à PIDAPAP 2. Donc, par contre, vous allez voir quelques noms oubliés, tout ça. Il y a quelques projets. Ça, c'est les anciens projets de PIDAPAP 1 ou les projets qui étaient dans le traité par le SDM, dont certains sont toujours en cours et ont été reconduits dans PIDAPAP 2. Donc, on a toujours dit que PIDAPAP 2 est inclusif dans le sens que si un projet n'a pas encore abouti, il peut toujours, concourir, toujours être représenté dans PAP 2, dans la longue liste, dans la liste de réserve, pour éventuellement se retrouver dans la shortlist. Donc, ça répond à la question. Donc, tout est bien, tout est comme prévu. Les 54 projets ne sont certainement pas les projets que nous, on est en train d'analyser. C'est pas du tout la shortlist. Quoique, il pourrait y avoir certains projets en commun entre ce qui existe déjà et l'éventuelle shortlist qu'on compte finaliser dans une semaine à peu près. Votre troisième question, C'était sur le cadre réglementaire. Bon, ce que je pense que ce que Ibra voulait dire, il va développer certainement, c'est tout ce qui concerne le cadre légal et réglementaire. Si vous faites un projet d'énergie, il faut bien avoir le tarif, les conditions de rachat, tout le cadre légal et réglementaire dans le pays qui réglemente en fait surtout si ça concerne, si c'est le privé qui intervient dans les centrales et tout, ils vont en général pas intervenir, jamais investir s'il n'y a pas un cadre bien défini en termes de comment ils vont valoriser leur investissement et récupérer les revenus à partir du projet. Donc c'est ce qu'il appelait le cadre. La question 4, c'était les étapes S1, S2, S3, S4. Il n'y a rien à changer. Hein. On n'a jamais changé d'étape. Donc, cette méthodologie de classement de projet a toujours été la même. Depuis le début, depuis PIDAPAP 1, c'est la même, exactement la même qui a été adoptée dans PIDAPAP 2, dans le formulaire online. On a repris exactement les mêmes étapes, les mêmes milestones, les mêmes… comment on appelle ça ? Les mêmes… les mêmes étapes critiques. Donc, votre dernière question par rapport au ressenti, si les étapes puissent s'approprier, ben, justement, PIDAPAP 2 a essayé d'apprendre, en fait. Et on a essayé d'éviter les erreurs de PAP 1. En particulier, on a établi, on a mis beaucoup de temps, hein, et je dirais beaucoup de peine. On a pris la peine de bien s'assurer qu'il y ait une hiérarchie bien définie, en fait. C'est-à-dire que l'appropriation déjà des projets par les États membres. On s'est assuré que quand un projet est soumis, elle est soumise normalement par les États membres. Ensuite, elle est validée par les CER. Alors, il y a eu diverses approches. On a eu l'approche de la CDAO qui, eux, ils ont tout centralisé. Ils ont d'abord cherché l'accord du pays et puis c'est eux qui ont soumis. On a eu l'approche de la SADC où c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est les États membres qui ont soumis et puis eux, ils ont validé par la suite. Après, il y en a eu un mélange dans les autres cas. Bon. Alors, donc, on a fait on a pris la précaution de ça. De toutes les façons, on vous a consulté. Il y a eu des sessions de
formation. C'est bon.
Oui. Allô? Oui. Il y a eu des sessions de formation et il est prévu une consultation.
Moi, j'entends avec ça, hein.
Oui, attendez. Qui parle? Attends. Non, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui est… Je vais arrêter les micros peut-être pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc, on a eu on aura en fait une session, un Continental Workshop. Malheureusement, pas physique. C'était prévu physique à Addis. On allait inviter tous les CER et les États membres à déléguer quelqu'un à Addis pour revoir ensemble tous les projets comme on avait fait au mois de novembre. Malheureusement, à cause de la pandémie, je pense que ça va être en virtuel, en conférence comme on le fait maintenant. Donc, ça, c'est prévu octobre, au mois d'octobre, début octobre. Vous allez bientôt recevoir la convocation. Donc là, ce sera l'occasion de voir la longue liste de 234, la short liste de 50, de vérifier, de donner vos commentaires par rapport au choix, éventuellement… Il pourrait y avoir des arbitrations supplémentaires pour corriger par rapport aux déséquilibres sectoriels, régionaux, etc. Donc, tout ça, c'est prévu. Donc, finalement, rien n'a changé dans le plan initial. Et ben, tout va procéder peut-être avec un petit peu de retard éventuellement. J'espère qu'on va quand même maintenir les délais pour pouvoir… présenter tout ça au sommet des chefs d'État au début de l'année prochaine. Donc, je vais inviter Ibra. Ibra, vous pouvez peut-être élaborer sur la partie financement, sur le rôle de NEPAD comme agence de financement, qui était la première question. Et puis, éventuellement, sur cette dernière partie où on a parlé de la nécessité d'avoir des experts africains.
Ouais,
allez-y, Bran.
Merci, Krishna. Merci, Guisha, pour la question. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, comme toujours, d'ailleurs. Est-ce que l'agence de l'Union africaine est devenue une agence de financement? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas une agence de financement. Nous sommes une agence plutôt, je dirais, d'appui technique. Donc, c'est surtout l'appui technique et le conseil aux États membres. Maintenant, une des sous-questions que vous avez abordées très pertinemment, c'est est-ce que pour s'adresser au NEPAD IPPF, les États membres ou bien les communautés économiques régionales doivent passer par le NEPAD? Absolument pas. Ce qui peut arriver, comme Krishna l'a si bien mentionné, dans le cadre de la synergie entre le NEPAD IPPF, qui est un fonds de préparation de projets, et le SDM, qui est un mécanisme d'appui à la préparation de ces projets, c'est que lorsque vous allez adresser la requête au NEPAD IPPF et qu'il y a des activités préparatoires vraiment préliminaires, basiques, qui sont nécessaires afin que les projets remplissent les critères d'admission dans leur portefeuille, ils peuvent nous impliquer. Ils peuvent demander à l'agence du NEPAD, de l'agence de développement, de s'assurer à ce que le projet-là, comme c'est un projet PIDA, arrive à de travailler avec vous pour que le projet puisse remplir ces critères-là. Et cette coopération est en cours. On a toujours travaillé avec le NEPAD IPPF de cette manière. Et ce n'est pas par hasard, je dirais, que le fonds s'appelle NEPAD IPPF, parce que justement, les fonds visent à porter, à préparer les projets qui soutiennent l'idéal du NEPAD. Nous faisons partie, nous en tant qu'institution, nous faisons partie du comité de surveillance du fonds, qui est en fait, comme l'a bien mentionné Krishna, c'est un fonds multi-donateur, dont les principaux donateurs sont justement l'Allemagne. Les principaux donateurs, c'est justement l'Allemagne pour ce fonds, et qui est aussi le principal soutien technique financier du SDM. Donc, il y a une certaine synergie, tant d'un point de vue technique en termes de la mise en œuvre de ce projet, qu'il y a un point de vue de coopération internationale et de mobilisation des ressources entre le SDM et le NEPAD IPPF. Je pense que nous ne devrions pas projeter, nous en tant qu'agence de développement de l'Union africaine, l'image que nous sommes en train de jouer les rôles des agences de financement. Non, nous ne sommes pas conceptualisé pour être une agence de financement de développement. Nous sommes conceptualisés pour être une agence d'appui au développement. Maintenant, d'où viennent ces projets? Je pense que les projets que vous avez vus sur ma présentation, ce sont les projets PIDAPAP 1. La raison pour laquelle nous travaillons avec ce projet, c'est qu'il faudrait que nous travaillions sur des projets qui sont une priorité continentale. Étant donné que PIDAPAP 2 n'est pas encore prêt, donc nous travaillons sur ce qui existe. Maintenant, évidemment, je pense que le processus de sélection de PIDAPAP 1 qui a eu lieu il y a de cela 10 ans a donné lieu à d'importantes leçons que PIDAPAP 2 a appris et a capitalisé là-dessus. Et je suis d'avis avec vous que PIDAPAP 2, l'approche de PIDAPAP 2 semble beaucoup plus participative et inclusive. Et vous apprécierez avec moi que PIDAPAP 1, c'était vraiment une première pour le continent. C'était la première fois que l'Afrique s'est mise sur la table pour définir une liste prioritaire de ses projets en matière d'infrastructure. Et l'ambition a été trop grande. Maintenant, sur les portefeuilles, nous avons plus de 400 projets. La stratégie de mise en œuvre de ces 400 projets n'a pas été optimalement définie en 2012 lorsque PIDA était lancée. et Krishna l'a bien mentionné, nous avons tenu compte collectivement avec vous de ces lacunes-là que nous sommes en train de corriger. Mais les SDM travaillent tout de même sur cette liste qui existe parce qu'il faut travailler sur quelque chose. Donc, c'est pour cela que vous allez voir la liste de projets, bien que la liste de projets puis de facteurs n'est pas là. Je pense que Krishna a bien couvert la question sur le cadre réglementaire, aussi la question sur les différentes phases de PIDAPAP 1. Maintenant, si vous avez à soulever des questions lors de différentes réunions par rapport à ces différentes phases, je suis sûr que cela a été débattu et qu'un consensus a émergé afin de qu'on puisse conserver la même nomenclature, c'est-à-dire S0 jusqu'à S4 avec les sous-sections nécessaires. Je partage bien votre ressenti, que ce soit sur les processus PIDA ou tout processus continental qui n'accorde pas une place suffisante aux États membres. Ces ressentis seraient partagés, que ce soit dans les domaines de l'agriculture ou bien de l'éducation, à plus forte raison, les domaines des infrastructures. Donc, il est important à ce que je donne un petit background sur la manière dont l'Union africaine élabore la coopération avec l'Allemagne et notamment la GIZ et comment le NEPAD exécute ce que l'Union africaine s'est accordé avec les partenaires techniques et financiers. Avant que l'Agence de développement de l'Union africaine accepte un certain appui technique de la GIZ, du gouvernement allemand en fait, il y a ce qui s'appelle les négociations gouvernementales, donc entre l'Union africaine avec tous les organes nécessaires que vous connaissez, donc qui nous représentent tous, et le ministère allemand de la coopération internationale et du développement international. C'est lors de ces négociations que certains besoins exprimés par l'Union peuvent être soutenus par le gouvernement allemand. Et le domaine des infrastructures a toujours été une priorité pour l'Afrique. Donc, c'est tout à fait normal que ceux qui veulent coopérer avec nous dans le cadre de la coopération internationale pour le développement répondent à cela. Et c'est dans ce cadre que je pense que l'Allemagne accorde, par exemple, les tout derniers financements qu'ils ont accordés à NEPAD IPPF s'élevaient à 10 millions, par exemple. Et c'est de cette même manière qu'ils accordent un rôle. Une fenêtre d'appui à la préparation des projets par l'Agence de développement, notamment SDM. Il vous souviendrait que lors de la présentation, j'ai insisté sur le fait que le principal problème qui a été identifié et que l'Agence du NEPAD à l'époque est appelée à proposer des solutions, c'est l'absence de capacité et d'expertise et des capacités humaines et financières à la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, pour les pôles d'experts, les groupes d'experts, pour les groupes d'experts avec qui nous travaillons, les processus de recrutement, évidemment, dans le cadre de nos négociations avec l'Allemagne, nous n'avons pas en charge les processus de passation des marchés. C'est-à-dire, ce n'est pas l'agence du NEPAD qui recrute, mais nous participons à ces processus. Maintenant, comment nous nous sommes assurés à ce qu'il y ait une participation de l'Afrique dans les processus de sélection? Les processus de sélection, nous l'avons voulu être ouvert. C'est-à-dire, une fois que les termes de référence ont été définis, l'appel d'offres pour la constitution des pôles d'experts a été ouvert. C'est une longue période, en 2018. Et évidemment, comme je disais, c'est le bailleur des fonds qui a pris en charge les processus de passation de marché, mais nous avons contribué, nous avons défini les termes de référence en tant que l'unité en charge du SDM, parce que nous avons, c'est nous qui savons ce que le SDM et ce qu'il doit faire. Donc, une fois que ce processus a été ouvert, il y a eu plein de soumissions et les entreprises peuvent être globales, africaines. Vraiment, ce n'était pas un processus discriminatoire. Mais au niveau des experts, les experts qui vont constituer les pôles d'experts, nous avons été explicites à dire qu'il nous faut des gens qui connaissent la réalité du continent. Au risque d'être prétentieux, je dirais qu'il n'y a pas mieux que l'Afrique pour connaître la réalité de l'Afrique. Et dans ces pôles d'experts, il y a la majorité africaine, en fait. La majorité des experts qui se trouvent dans les pôles est africaine. Maintenant, une fois que l'expertise a été contractée, les points essentiels que je voudrais surtout apporter à notre attention, cher, ici, c'est à quel est le degré de flexibilité des États membres pour l'analyse de leurs projets et la sélection des experts qui vont travailler sur leurs projets. Je pense que cette flexibilité est totale. La flexibilité commence d'abord, un, à la soumission de la requête. Si vous avez la latitude de nous saisir sur un problème particulier sur votre projet, une fois que nous avons reçu votre requête, nous allons analyser à l'interne. C'est l'agence du NEPAD qui analyse votre requête et nous identifions nous-mêmes ce que nous pensons être des actions optimales pour ce projet. Deuxième niveau de flexibilité, lorsque nous vous ferons les retours, c'est ensemble que nous allons définir les activités que vous jugerez importantes et prioritaires pour vous sur ces projets particuliers. Donc, troisième niveau de flexibilité, une fois que nous nous accordons sur les activités clés prioritaires, maintenant il s'agit de l'expertise. Évidemment, nous allons proposer que dans les pôles d'experts, voilà, il y a deux façons de voir. Soit ce qui vous intéresse, c'est le service, c'est-à-dire vous voulez qu'une étude de faisabilité soit faite. Donc, ce qui vous intéresse, c'est que l'étude de faisabilité soit faite. Donc, nous allons vous mettre en contact avec l'expert et l'étude de faisabilité sera faite selon votre terme. Ça, c'est un quatrième niveau de flexibilité. La deuxième façon de voir les choses, c'est que l'expertise que nous allons vous proposer, vous pouvez dire que vous n'avez pas un accord absolu pour cette expertise particulière. Et dans ce cas, c'est un processus qui est prévu de la procédure opérationnelle des SDM, c'est que vous allez nous fournir des évidences sur la non-conformité de cette expertise. Par exemple, si en cas de ressources humaines, si la ressource n'a pas connaissance suffisante du terrain, ça c'est tout à fait normal, ou bien si la prestation de service est médiocre, ça c'est tout à fait normal. Donc ça c'est un cinquième niveau de flexibilité qui vous permet de vous impliquer du bout en bout à l'appui technique que les SDM peuvent fournir aux États membres. J'estime que cela a couvert votre ressenti. Et comme je l'ai dit, je partagerai ce ressenti pour tout processus continental qui n'accorderait pas la place qu'il faut aux États membres. Parce que cela ne peut pas faire sens d'entamer une procédure à l'échelle continentale à ne pas mettre les États membres au centre du processus. Je le dis parce que souvent, au niveau continental, évidemment, si nous existons, c'est parce qu'il y a une décision continentale qui nous a prouvé notre existence. Mais c'est toujours bien à ce que une action soit conduite suivant la sollicitation, la demande et les termes des États membres. Merci beaucoup.
Merci, merci, Bra, pour cette question, pour la réponse détaillée, ce que vous avez donné. La prochaine question, je crois que Biliga, Madame Biliga, a une question. Allez-y, vous pouvez y aller.
Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je me nomme Madame Biliga Koivogi, point focal genre et changement climatique au niveau du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Je remercie M. Ebra pour sa brillante intervention. Et j'ai suivi avec intérêt sur les questions axées sur l'environnement social. Mais cependant, dans son intervention, je n'ai pas entendu parler d'une composante genre. Et actuellement, avec les ODD, je pense qu'il est question de tenir compte à cet aspect. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un plan d'action élaboré par les Nations Unies sur les égalités des sexes. Donc, il y a des activités dedans qui peuvent se réaliser au niveau national, d'autres internationales. Donc, je suggère à ce que cette composante soit prise en compte au niveau de PIDA. Donc, je vous remercie.
Merci, merci, madame. Bon, déjà, ce que je peux rajouter, c'est que PIDA, justement, PIDA PAP 2, il y a dans les critères, pour ceux qui étaient présents dans les formations, il y a une des critères de sélection, c'est le critère genre, mais plutôt du côté participation de la femme dans l'infrastructure. Donc, dans tout ce qui est études et constructions. Donc, le critère favorise en fait les projets qui sont conçus avec, qui donnent une place à la femme, au genre en fait, mais, et on sait qu'il y a déjà un déséquilibre en défaveur des femmes. Donc, il y a ce qu'on appelle des actions préférentielles, non, des actions prévues dans le cadre du projet qui permettent à plus de femmes ingénieurs, techniciens, entrepreneurs, fournisseurs de matériaux, chefs d'entreprise, à bénéficier des contrats de construction, des marchés dans la construction. Donc ça, c'est ce qui est déjà prévu et ce qui a tendance à favoriser, à propulser les projets qui ont cet élément-là dans la liste prioritaire. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, ce qui va se passer surtout sur le plan de l'implémentation maintenant, une fois que les projets sont dans la phase prioritaire, plutôt du côté de AODA, je dirais, avec nos collègues Ibra et les autres, c'est la partie, la femme comme bénéficiaire des infrastructures. Donc, ce qu'on appelle le demand side. Alors, pour cela, ce qui a été prévu dans le cadre de PIDA, c'est la création, déjà, il y a eu la création de Anwin. Vous avez certainement entendu parler de ANWIN, African Network for Women in Infrastructure. Donc, c'est un réseau, je dirais, de lobbying politique et tout pour aller faire du lobby en faveur des politiques qui sont favorables aux femmes. Donc, ça existe déjà. Et on est en phase d'élargir, en fait, ce qu'on appelle ce steering committee. Ce qui a été décidé, c'est de créer un comité de pilotage élargi avec un participant de genre, un point focal genre de chaque pays, par exemple, et un point focal genre de chaque CER qui va être membre. Non, plutôt dans le comité de pilotage, c'est uniquement les CER, mais il y a un troisième niveau qui va être les bénéficiaires. Donc, il y a un réseau encore plus large, je dirais, de bénéficiaires. Là, c'est les points focaux au pays, c'est les ONG, c'est les grandes entreprises qui ont un département JA, un responsable pour le JA. Et là, ces gens-là vont bénéficier de ce qu'on appelle de tout le réseau, tout l'apport. Par exemple, les guidelines, il y a actuellement des guides qui sont en train d'être élaborés pour ce qu'on appelle pour recentrer, en fait, pour valoriser le JA dans l'infrastructure, que ce soit du côté construction ou du côté bénéficiaire. Et finalement, il y aura les formations, ce qu'on appelle les cours à distance, les e-learning courses, qui sont en train d'être conçus pour dispenser ces cours à ce large public, en fait, à ce réseau de niveau 3, ce réseau élargi de bénéficiaires, points focaux, ONG, locaux, etc., qui vont bénéficier de cette formation. Donc, comment, dans le domaine de l'infrastructure, comment est-ce qu'on peut renforcer le rôle de la femme, que ce soit du côté la femme entrepreneur, construction d'infrastructures, ou usager, bénéficiaire des infrastructures, que ce soit la route, l'énergie, l'eau ou les communications, la télécommunication. Voilà en gros ce qui est prévu. Peut-être Ibra, tu voudrais compléter?
Merci bien. Allô?
Oui. Allô? Allez-y,
Lily. Bon, maintenant, par rapport à toutes ces informations dont vous venez vous donner, est-ce que, en tant que point focal, genre et changement climatique, nous sommes habilités à soumettre un projet à PIDA? Parce que si vous prenez les infrastructures, par exemple au niveau de la Guinée, les infrastructures ont assez d'impact sur les femmes. Mais c'est que c'est des choses qui se passent inaperçues, mais il faut être sur le terrain pour le voir. Donc, sur ce, est-ce que nous sommes habilités à soumettre un projet?
Alors, si c'est un projet d'infrastructure, il aurait, c'est à travers la CER, en fait. Mais là, on a passé le délai de soumission. En fait, il y a déjà 25 projets qui ont été soumis dans la région centre, par exemple. Okay. Mais ça, c'était soumis par les États membres, qui ont été validés par les collègues, par Guichard et son équipe. Donc là, on est dans la phase vraiment d'analyse de ces projets pour voir lesquels des 10 projets des 25 vont se retrouver dans la shortlist et ensuite de procéder à l'implémentation de ces projets. Mais comme je vous ai dit, si c'est vraiment quelque chose qui a trait au JA, moi je vous inviterai à vous rapprocher. Donc peut-être laissez vos coordonnées dans le chat, votre email, vos contacts. Je vais vous mettre en contact avec mes collègues qui s'occupent de la coordinatrice plutôt de Anwin, qui va à ce moment-là être en relation avec vous pour vous inscrire en fait dans le réseau des bénéficiaires. Et comme ça, vous allez pouvoir en fait contribuer de cette façon sur la partie implémentation des projets de votre région. OK? Donc, Ibra, en fait, vous vouliez intervenir en fait pour compléter?
Oui, merci bien. Merci, Krishna. Juste deux petits points. Le premier point, c'est pour les aspects JAR, évidemment, le plus souvent, les gens, nous avons tendance à l'inclure dans la composante sociale, environnementale, gouvernance. Je partage votre avis. Je pense que dans les critères peut-être d'analyse de nos projets, il va falloir que nous devions un peu beaucoup plus explicites. Le deuxième point, c'est que il y a un outil qui peut aider à expliciter l'impact de ces projets d'infrastructure pour la participation de la femme, par exemple, c'est l'outil de création d'emploi de PIDA Job Creation Toolkit. Donc, cet outil-là, c'est un outil en ligne, en fait. Nous pouvons vous donner accès. Si vous avez un projet, vous pouvez estimer le nombre d'emplois que ce projet peut créer. Et nous sommes actuellement en phase de upgrade, d'amélioration de cet outil pour qu'il puisse désagréger ses emplois par genre et par tranche d'âge pour qu'on puisse voir la part réservée à la jeunesse et aux femmes, surtout tout au long du cycle de vie de ce projet. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. Nous devons prendre possession de cet outil. L'avantage de cet outil, qui est une plateforme en ligne, comme j'ai dit, que nous pouvons vous donner accès, c'est que si vous avez les données sur le projet, qui peut être PIDA ou non PIDA, vous pouvez estimer le nombre d'emplois que ce projet peut créer. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'outil ne va pas seulement vous donner le nombre d'emplois, l'outil va vous donner aussi les secteurs industriels clés, les secteurs de l'économie clés, d'où ces emplois vont venir. Donc, cela constitue un outil de politique publique très important, parce que s'il s'avère que c'est le commerce en détail ou bien la restauration ou l'alimentaire qui va générer un nombre d'emplois secondaires importants, et connaissant la structure macroéconomique de nos pays, ces secteurs-là, le commerce de détail, l'alimentaire et la restauration, est détenu principalement par la jeunesse et les femmes. Et donc, ça, vous avez un outil pour impulser des décisions politiques en faveur de ces secteurs-là et par ricochet, soutenir la participation ou maximiser les bénéfices pour la femme et la jeunesse pour les projets d'infrastructure. Merci bien.
Merci, Ibra. Et nous avons deux demandes de questions de Maubert et de M. Philibert Alexis. Donc, peut-être on va écouter M. Maubert déjà.
Oui, en fait, je voulais intervenir plutôt, pas vraiment une question, c'est pour compléter sur les interrogations de madame. Au cours des sessions de formation que vous avez données, M. Krishna, déjà ici à Libreville et en ligne, la question du genre a été fondamentalement abordée pour des questions d'infrastructure et que vous avez mentionné et que s'il était pris en compte dans l'éligibilité du projet et dans sa mise en œuvre, cette dimension genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension, un projet spécifique au genre, mais plutôt une dimension genre qui va être mise en avant dans
tous les projets.
Et dans la formulation du projet et dans la mise en œuvre du projet. Je prends l'exemple, par exemple, d'une route. Une route, non seulement l'emploi des femmes, mais aussi, si on sait bien, la route amène beaucoup de choses, notamment le flux de voyageurs, des camionneurs, qui peut avoir sur la santé des femmes, des impacts sur les aspects VIH. Et voilà, donc, on ne sait pas dire vraiment genre à proprement parler comme projet, mais plutôt dans la formulation et dans la mise en œuvre, l'aspect genre est toujours présent et est toujours au centre de la question.
Tout à fait. Merci. Merci pour ce complément, Maubert.
Allô?
Oui. Allez-y.
Voilà. Donc, par rapport aux interventions de monsieur qui vient de parler tout à l'heure, cela m'amène à dire que tous les projets, quel que soit le projet, le genre, l'aspect genre a sa place.
Ah, parce oui,
que,
oui.
Voilà, l'aspect genre, quel que soit le projet.
Transversal, en fait.
Merci.
Question de spécifique. Tu peux le retrouver, par exemple, dans les aéroports. Au niveau de... Il ne faut pas aussi prendre... prendre les termes genre un aspect dégradant, c'est-à-dire que donner des métiers le plus bas aux gens. Il peut y avoir un ingénieur.
Bien sûr. BTP,
genre, voilà. Et le genre doit aussi avoir une dimension, pas que la femme, mais au-delà de la femme, parce que le genre a beaucoup de nouveautés avec beaucoup de choses. C'est plutôt un certain équilibre dans l'employabilité de l'humain, en fait. Que ce soit femme, homme, mais qu'on essaye de respecter cette équité. Voilà.
Merci. Merci encore, Maubert. Donc, juste pour ajouter ce qui a été dit, le critère genre dans la sélection de PIDA a un poids de 10% sur les 8 critères. Donc, c'est presque... Parce que la moyenne, je dirais, hein, je dirais, c'est plus important que la connectivité rurale qui vaut 5%. Et donc, voilà. Donc, ça a été vraiment mis en valeur. Et tous les projets sont concernés. Et plus ils ont des actions en faveur du JA, plus ils seront en priorité. OK. Donc, merci. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question de M. Philibert. Monsieur Philibert Alexis, allez-y.
Oui, merci beaucoup. Oui. Et nous avons suivi avec intérêt la présentation de Monsieur Ibra. Et d'entrée de jeu, je tiens à vous présenter les excuses de Monsieur Bakary, qui est le chef du service des transports, mais qui, pour des raisons de service, il est actuellement en mission sur le terrain. Okay. Donc, c'est pour ça que je suis seul actuellement face à vous. Mm-hmm. Alors, de l'intervention de M. Ibra, et j'ai compris qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui parlent la langue anglaise et nous, aujourd'hui, qui avons la langue officielle comme le français. Mm-hmm. Alors, de la documentation qui avait été jointe au courriel a été exclusivement en langue anglaise. Donc, ça veut dire que nos amis, nos collègues de la zone anglophone ont une longueur d'avance sur nous. Donc, ils ont eu le temps de lire correctement et avant leur séance, la visioconférence. Donc, est-ce que c'est possible maintenant de nous envoyer la version en langue française de ce qui a été joint, la documentation qui avait été jointe au courriel?
Oui, en fait, c'est la documentation qu'on peut télécharger sur le site, sur le lien que Ibra avait circulé. Bon, en fait, ça, je vais laisser à Ibra le soin, mais effectivement, c'est possible de traduire, mais peut-être pas tout de suite. On va voir. Ibra, vas-y.
Oui, mais merci bien, M. Philibert. Et toutes nos excuses si vous avez reçu la documentation qu'en anglais. Je pense que il faut le reconnaître. Les instances internationales, et en particulier l'Union africaine, nous sommes en train de faire de gros efforts pour assurer cette équité. Parce que il y a une certaine prévalence d'une langue par défaut à l'international qui se développe de plus en plus et ce n'est pas équitable, donc je le reconnais. Maintenant, pour la documentation des SDM en particulier, nous disposons de la méthodologie détaillée, vraiment détaillée, et en français et en anglais. Nous disposons aussi de brochures et en français et en anglais disponibles sur la plateforme VPIC. Et je le disais à Ephraim et Krishna, les collègues, que c'était ce qui a fait que je n'avais même pas partagé mes présentations à temps, parce que ces informations sont disponibles sur la plateforme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager et les liens pour télécharger ces documents, mais je vais aussi partager et les documents eux-mêmes. Donc, comme ça, les documents peuvent se perdre, mais les liens peuvent rester permanents dans votre boîte électronique. Merci bien.
OK. Oui, deuxième chose. Et lors de la soumission des projets, il y a quelque chose qui a échappé et que Madame, notre commissaire en charge du département de l'aménagement du territoire et des infrastructures voudrait bien que l'on revoie avec vous. Il s'agit d'un projet. Congo et le Cameroun, en partant de Mabéba au Congo et Kribi au Cameroun. Est-ce que à l'état. Pas soumis, même si c'est à l'étape vraiment primaire, disons, c'est à la phase d'initiation, que cela au moins soit soumis actuellement. Donc, vraiment, c'est une préoccupation de la hiérarchie qu'on vous soumet. Et maintenant, on doit vraiment vous joindre. Est-ce qu'il y a un groupe? Vous avez constitué un groupe par lequel, si nous avons des besoins spécifiques, vous joindre par le truchement, bien sûr, du point focal, c'est-à-dire M. Guichard, et, ou bien c'est la plateforme que nous avons utilisée. Est-ce qu'il y a un moyen d'entrer en contact avec vous, ou bien de façon personnelle, on peut se joindre, par exemple, M. Krishna? C'est-à-dire que nous avons parfois des interrogations, des préoccupations. Alors, on ne sait pas. Si on avait su cette préoccupation de la hiérarchie, vous aurait été déjà transmise un peu plus tôt. Voilà un peu ce que nous avons.
Ah oui, non, mais c'est très simple en fait. Parce que moi, quand j'envoie les invitations, je les envoie soit de mon mail de l'Union africaine ou bien de PIDAPAP 2. Mais PIDAPAP 2, c'est moi, ça revient vers moi de toute façon. Donc, quand vous avez sur le site web de PIDA, veuillez nous contacter. La rubrique où vous pouvez envoyer contactez-nous, contact us, etc. En fait, c'est l'adresse mail PIDAPAP 2 que vous pouvez utiliser, qui est privée. Hein. C'est une adresse qui n'est pas privée, mais qui est unique, qui revient vers moi et mon collègue à Ouda. Et là, on va vous répondre. Donc, vous pouvez utiliser ces deux canaux. Et de toute façon, si vraiment on a besoin de parler, moi, je peux vous partager un WhatsApp sur lequel on peut parler tranquillement. Il n'y a pas de souci, hein, à n'importe quel moment. On a toujours pratiqué, en fait, la disponibilité, comme vous savez. On était toujours ouvert. Et à n'importe quelle question que vous avez, vous pouvez nous contacter. Il n'y a pas de souci. Concernant votre… il y avait une petite interruption. On n'a pas bien entendu. Je pense que vous avez référé à un projet du Congo-Cameroun que vous avez, qui a échappé, en fait, que vous n'avez pas pu soumettre. Bon, moi, je dirais tout simplement, M. Philibert, écoutez, vous avez déjà une vingtaine, plus de 20 projets dans le pipeline, en fait, dans la sous-région centre, plus certaines, quelques autres dans la région qu'on appelle multirégion. Donc là où vous êtes à cheval avec, par exemple, la région australe et certains même avec la région ouest, je pense. Donc, ce n'est pas forcément très utile de soumettre ce projet-là, dans le sens qu'il n'y a que 10 qui vont être retenus dans la shortlist, mais rien ne vous empêche peut-être de vous approcher. En fait, je n'ai pas bien saisi quelle était l'étape du projet. Vous êtes à quel niveau? S0, S1, S2?
S0.
Ben, justement, dans ce cas, bon, peut-être vous pouvez nous envoyer déjà. On pourra, une chose que peut-être qu'on ne pourra pas faire, on ne voudra pas en fait rouvrir le pipeline, parce que si on le fait pour… On a reçu des demandes de d'autres régions aussi qu'on a dû refuser, parce que de toutes les façons, pour une raison très simple, pratique, c'est qu'on a déjà 234 projets alors qu'on ne va retenir dans la shortlist que 50. Donc, est-ce que ça vraiment c'est important à ce stade-là de faire? Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est vous rapprocher de si c'est un projet, par exemple, la BAD, par exemple, vous pouvez écrire directement à la BAD ou à nos collègues de AUDA ou bien à NEPAD APPF. Parce que NEPAD APPF, ce qui a été clarifié aussi, ils ne sont pas exclusivement PIDA, hein, ils acceptent aussi des projets en dehors de PIDA. Explorer toutes ces pistes. Et puis, il y aura certainement, je pense que ce qui a été convenu aussi, c'est que la shortlist, en fait, va être revue tous les 3 ou 4 ans. Donc, la prochaine revue de cette shortlist, c'est prévu en 2024, d'après la décision qui a été prise au Caire l'année dernière. Il y a une première revue en 2024 où on va revoir la liste et rafraîchir cette liste. C'est-à-dire, s'il y a des projets qui sont bloqués, qui n'ont pas bougé, on va les retirer, on va les remplacer par d'autres dans la liste de réserve qui sont plus pertinents. Et la deuxième revue va se faire vers 2027 avant la fin de 2030, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Donc, je vois Guichard qui veut prendre la parole aussi, et puis il y a Docteur Doré. Donc, Guichard, on va peut-être vous écouter déjà, peut-être que c'est lié à cette question.
Merci, Krishna, pour la réponse que tu venais d'apporter à mon collègue, M. Kenom. Là, je voudrais juste apporter un complément. Je voudrais juste clarifier que les choses soient claires au niveau de M. Kenom, que les projets PIDA s'inscrivent dans la liste des projets pour compléter les maillons manquants, les chaînons manquants entre le nord et le sud. Il faudrait qu'on puisse avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire pour connecter le nord et le sud, et l'Afrique centrale joue un rôle important. Et ce sont ces chaînons manquants-là qui doivent constituer la liste de projets que nous soumettons au PIDA. N'empêche, en tant que CEAC, nous avons nos plans à nous, des projets d'interconnexion. Et l'ensemble de nos projets ne sont pas obligés de faire partie des projets PIDA. Donc, si ce projet-là qui est proposé par le service transport est un projet prioritaire pour la CEAC, il appartient à la CEAC d'approcher les partenaires pour que les partenaires l'accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, je prendrai attache avec le chef de service transport pour un peu avoir des éléments, des détails sur ce projet parce que j'étais pas au courant de ce problème-là. Et puis, si possible, je discuterai en off avec M. Krishna. Mais je pense que l'approche que nous allons prendre, si c'est notre projet prioritaire, nous allons approcher les bailleurs que sont, comme le projet à l'étape S0, l'IPPF NEPAD accompagne la CEAC dans le processus d'élaboration de projets. Donc, c'est une information que je voulais juste compléter cette information. Merci.
Merci Guichard, merci. Et Docteur Doré, vous avez demandé la parole, allez-y.
Ah ouais, merci beaucoup.
On vous écoute.
Ouais, merci beaucoup.
Oui.
Vous m'écoutez?
Oui, allez-y, on vous écoute. On vous écoute, allez-y.
Ok. Je voudrais savoir, est-ce que, à ma connaissance, vous venez de déclarer que les projets déjà retenus par le pape 2, par CER, est-ce que vous pouvez les publier pour que chaque participant puisse l'avoir et se situer par rapport à son pays et par rapport à son CER, quels sont les projets retenus ou bien les projets proposés? Parce que moi, personnellement, je suis sur ma faim. Je ne sais pas quels sont les projets qui sont retenus par mon CER. C'est des informations qui sont nécessaires, mais qui passent inaperçues. Si on est informé que au niveau de son CER, on a tel nombre de projets qui est retenu par le projet. Là, on est édifié. Je ne sais pas si c'est possible de publier pour que chaque participant ou chaque point focal puisse être en possession de cette liste sur le niveau continental, bien sûr. Pas seulement que mon CER, mais que je cherche les autres projets qui sont, n'est-ce pas, retenus dans les autres, dans les autres CER.
OK. Donc, merci. Oui, merci, Docteur Doré. Pour répondre à votre question, en fait, c'est que oui, effectivement, le site web de PIDAPAP 2, que la plupart d'entre vous connaissent, en fait, a deux types d'accès. Il y a un accès public où on peut voir, en fait, les documents de base, la note analytique sur le PIDAPAP 2 lui-même, etc. Et puis, il y a un accès projet. Donc, la plupart des collègues ici, Rolly, enfin Guichard, sont des points focaux. En tant que point focal, je ne sais pas trop si vous êtes un point focal pays ou CER, mais tous les points focaux pays de PIDA ont un accès il peut voir tous les projets de tout le continent. Donc, et les points focaux, je dirais…
Je suis,
allez-y. Vous êtes point focal
Monsieur. Je suis un point focal pays, oui. Point focal pays de la Guinée, de la République de Guinée.
Est-ce que vous êtes enregistré sur le site? Je me rappelle, enfin je vais vérifier. Si vous n'êtes pas enregistré,
je suis enregistré sur le site.
Ben dans ce cas, vous avez accès. Est-ce que vous ne voyez pas les projets?
Ok, Monsieur Krishna, excusez là, je vais vous interrompre un peu là.
Allez-y.
Pour satisfaire Monsieur Doré, je suis à Thomas là du ministère de l'Environnement et point focal des autres. Bon, il n'y a qu'à voir dans le site. Moi, j'ai téléchargé. S'il veut, je veux le passer ça après.
Allez, d'accord. Okay. Voilà.
En fait, ça me fait beaucoup plaisir.
Allez, d'accord. Okay. Ça, c'est ce qui a été soumis. Mais la deuxième partie de la question, c'est la liste prioritaire. Effectivement, comme vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être présenté à tout le monde pendant l'atelier de validation continentale qui aura lieu au mois d'octobre. Donc ça, ce sera l'occasion pour vous tous de voir en fait tout ce qui a été soumis et tout ce qui est proposé comme un shortlist. Vous aurez l'occasion de donner votre avis, de discuter si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, etc. Et le but, c'est d'arriver à un consensus sur cette liste. Maintenant, d'ici là, on ne peut rien, comme vous savez, tout est très sensible, on ne peut rien publier, on ne peut rien, à ce stade, tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut diffuser, c'est au point focal, c'est ce que votre collègue a accès déjà, c'est tout ce qui est sur le site.
Ok.
Mais
ça marche déjà.
Au mois d'octobre, vous allez déjà voir la shortlist, vous, c'est-à-dire les points focaux, et après le sommet, ben, elle va être publique. Après le sommet des chefs d'État, là, parce qu'on ne peut rien faire tant que les chefs d'État n'ont pas validé, en fait, cette liste. C'est très, très sensible.
Ok,
juste après le sommet, ça va être largement vulgarisé, diffusé à tout le monde pour faire connaître cette liste.
Ok.
Je vois qu'il n'y a plus de mains levées. Par contre, au niveau des questions, je vois il y a Zoubir qui m'a posé une question sur la publication de la shortlist. Je crois que je viens de répondre. Ben, elle ne va pas être publiée. Elle va être publiée qu'après le sommet. Par contre, elle va être présentée pendant l'atelier de validation. D'accord. Je pense qu'il a déconnecté. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est arrivé à l'heure prévue pour le webinaire, donc il y a peut-être des personnes qui ont d'autres engagements. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut les prendre. Sinon, on va peut-être s'arrêter là. Monsieur Babana Diop. Ah, vous avez levé la main. Non, en fait… Vous pouvez lever la main par rapport au site aussi. Ah bon, d'accord. Heureusement, vous avez la vidéo, j'ai vu. Allez-y. Ouais.
Voilà. Moi, j'ai une question, ou bien peut-être, je ne dirais pas une question, mais une demande quand même.
Oui.
Faites tout pour que lors de cette conférence par vidéo fréquente et par vidéo… comment on appelle là?
Vidéoconférence, allez-y.
Voilà. Il faut que vraiment les documents soient en français.
Ah, oui. Dans l'atelier continental, ok.
Voilà. Même aujourd'hui, notre collègue qui a présenté l'élément, on voit la plupart c'est en anglais. Alors que vous dites que ça, c'est le jour des francophones.
Non, les documents seront…
Les francophones, il ne faut pas être en anglais.
Les documents, on va traduire les documents. D'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de documents, il y aura les projets, hein. Bon, les projets sont en français, on va les montrer en français. Si les projets sont en anglais, on va les montrer en anglais. On ne va pas traduire les projets, hein, attention. Hein. Les documents d'analyse seront dans les deux langues, mais les projets restent. Il y a des projets en portugais. Hein. Ils restent en portugais.
À la limite à ma frontière. Ce qui n'est pas conforme maintenant.
Oui, D'accord, j'espère que ça répond à votre question, M. Babanadiou.
D'accord.
OK. Guichard, M. Guichard, je vois votre main est toujours levée. C'est une nouvelle question, mais c'est l'ancienne.
Il y a deux Richard.
Ah non, Guichard Sangou, en fait, je voulais dire.
Non, je n'ai pas de questions. Hein. J'ai pas de questions.
D'accord, merci. OK, ben, qui d'autre? Attendez. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une intervention à faire? C'est le moment.
Krishna, je vois sur le chat qu'il y a une question de Hassan Bouti. Il a posé une question.
Ah oui, oui, attendez. Je pense que j'ai raté celle-là. Il est toujours connecté, Hassan? Lis la question, je la reprends.
Je suis là, M. Bouti.
Allez-y, M. Bouti, posez votre question.
Ma question concerne, j'ai demandé est-ce que nos pays, les pays membres peuvent, durant la réunion d'octobre, proposer des nouveaux projets ou proposer à des projets qu'ils trouvent qu'ils ne s'intéressent pas à ces projets qui ont été. On a constaté que il y a des secteurs qui n'ont pas pu présenter des projets pour plusieurs raisons. Il y a des secteurs où il y a eu des changements au niveau de leur administration. Donc, je voulais savoir est-ce qu'ils peuvent se rattraper durant le.
Ben, malheureusement, non, en fait, comme j'expliquais précédemment, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour diverses raisons. C'est que d'abord, on avait un dernier délai, je crois, en avril, qu'on a étendu au mois de juin, on a étendu au mois de juillet. Et là, je pense que c'est plus possible, on ne va plus pouvoir garder ouvert cette liste. Par contre, opposer à un projet, je ne sais pas trop, mais vous pouvez certainement donner vos commentaires, donner votre avis. De là à vous opposer à un projet, je ne sais pas trop ce que ça veut, dans quel sens vous voulez vous opposer au projet. De toute façon, les projets sont dans la longue liste. Une fois qu'ils sont éligibles, ben, elles restent éligibles. Sauf si le pays, pour une raison quelconque, le pays décide de retirer le projet. Bon, ça, je pense, ça doit être. On n'a pas eu ce cas de figure encore. Pourquoi on viendrait retirer un projet, c'est pas très clair non plus. Mais une fois qu'elle est dans la longue liste, elle va y rester pendant 10 ans. Si le projet n'a pas évolué, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura deux revues en 2024 et en 2027. Si les choses ont bougé, allons dire dans les 4 ans qui viennent, post-Covid et tout, il y a beaucoup de reprises économiques et on arrive à au moins faire bouger les 50 projets, ben, les 50 autres, il va falloir les remplacer par une quarantaine, cinquantaine de nouveaux projets. Pas de nouveaux projets. De projets dans la liste de réserve. Qu'est-ce qui va être décidé en 2024? Est-ce qu'on va rouvrir un peu ou bien on va reprendre la liste existante? À ce stade, c'est très difficile, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises, même maintenant, bientôt, l'année prochaine. Qu'est-ce que la STC, le comité des ministres va décider? On ne sait pas trop. Mais à ce stade, ce qui est prévu, c'est ça. On part avec cette longue liste. On fait d'abord les 50 et on revoit la situation, on rafraîchit la liste. En 2024, on refait et on rafraîchit en 2027 et on essaie de terminer d'ici 2030. Voilà ce qui est prévu.
Merci.
Désolé d'avoir raté cette question.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les mains levées, j'en vois pas trop.
Hello, Krishna.
Yes, Ibra. Sorry, I forgot you.
Non, je voudrais dire, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais sincèrement remercier les collègues des États membres et des communautés économiques régionales pour l'intérêt. Je pense que c'est très encourageant pour nous, l'engouement de leur participation à chacune de ces activités. Ça montre que les processus est davantage participatif et c'est ce que nous voulons. Et je suis sûr que le meilleur est à venir. Je vais partager mes contacts dans le chat. Donc, s'il y a des questions, continuons la conversation par email, par Skype ou par téléphone par la suite. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup, Ibra. Et je remercie, je me rejoins en fait aussi à remercier tous les participants des pays membres, des CER. Nous avons eu la CEAC. Je crois qu'il y a M. Traoré de la CDAO, Younes Hassan Bouti de Ouma. Et donc, merci à vous tous. Et donc, on va vous communiquer, en fait, dans la série des webinars. Nous avons prévu au mois d'octobre deux webinars vers la fin octobre. Ça va être concernant plus des sessions par rapport au climat, tout ce qui est financement vert par rapport au climat et des thèmes comme ça. Donc, ça va être communiqué bientôt. Vous aurez la convocation. Par contre, ces thèmes, comme ça va être des collègues de la GIZ, je ne pense pas qu'il y aura une intervention française. Par contre, ça risque d'être un peu gênant. Ça va être en anglais. Mais bon, il y aura pas mal, tous les collègues de francophones du système, là, on va être présents, on va essayer de vous aider à comprendre, à traduire et à répondre à vos questions en français aussi. Donc, merci encore et à bientôt, je vous dis à bientôt. Et bon, je pense que la prochaine réunion, on va voir tout le monde, ça va être l'atelier continental PIDA, où vous allez voir en fait par rapport à aussi sur le site qu'est-ce qui s'est retrouvé dans la shortlist et quel était le processus qui a été adopté, la logique, la méthodologie. Ça va être présenté et ça va être validé pendant cet atelier. Oui, interprète. Ibra suggère de prendre des interprètes. Oui, effectivement, mais c'est compliqué. Il y a des délais de pour les mobiliser et puis les aspects coûts et tout. Donc, c'est pas aussi simple que ça. On a fait 24 webinars dans le cadre de PIDA sans interprétation. Donc, on a interprété nous-mêmes. On a essayé de faire des sessions dédiées comme on fait aujourd'hui, mais dans certains cas, c'était pas possible. Et, bon, on a pris un peu plus de temps, mais on a quand même réussi à faire des sessions un peu bilingues. OK. Ben, merci à tout le monde et pour votre patience. Et ben, je vous dis à bientôt, certainement au mois d'octobre pour l'atelier continental. Et bon, j'espère en fait que tout va bien se passer. On sera dans les délais pour le sommet et on prie que tout se passe bien pour que le sommet se passe dans de bonnes conditions et qu'on arrive à valider cette liste. Merci.
Merci, bye.
Bon, bye.
Merci.
Merci.
Okay.